Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Donc j'appuie sur play et puis après c'est quand tu veux. On est parti ?
Allez, c'est parti.
Salut Pascal.
Salut Barthélémy.
Comment ça va ?
Bah écoute, fraîchement, hein, ça me change de ma température du sud, mais ça va.
Ouais, bah écoute, merci d'être venu jusqu'à moi à Paris pour faire cette interview. C'est cool, on profite un peu de ta tournée un petit peu parisienne pour se croiser. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, en plus, t'étais toute la journée au Salon de l'Agriculture et que ça avait été assez éreintant, mais on va essayer de faire un épisode plein d'énergie et plein d'enthousiasme, j'en suis sûr. Comme je te le disais juste avant, la tradition sur ce podcast, c'est de savoir quels sont un peu tes souvenirs d'enfance autour du sport et notamment de savoir quel est ton premier souvenir d'effort.
Bah moi, mon premier souvenir de sport, il était plutôt football, tu vois, parce que mon papa était, enfin, joueur en équipe de France junior avant de perdre un œil. Et du coup, le premier sport vers lequel il m'a dirigé, c'était le foot, un peu comme okay. tous les gamins maintenant, même maintenant. Et donc ça a été mon premier sport. J'ai joué gardien de but. On a été champion de l'Essonne. Tu vois, j'habitais dans l'Essonne. Ouais. Et mais c'était pas le sport avec lequel j'accrochais le plus. Tu vois. Voilà, donc,
Pourquoi t'accrochais pas?
Je sais pas. Peut-être que déjà à l'époque j'avais déjà une ADN de sport individuel. Peut-être. Tu vois. Ouais. Et rapidement, je me suis tourné vers le judo, la boxe, enfin des sports où je pouvais m'exprimer par moi-même et à 100%, quoi.
Ok. J'ai cru comprendre que t'es allé assez rapidement sur le judo et que t'avais fait une longue partie de ton enfance sur le judo d'ailleurs.
Ouais. Alors en fait, j'ai commencé le judo, j'avais 11 ans.
Ouais.
Et à 15, j'étais ceinture noire, tu vois. J'avais déjà été 4 ou 5 fois champion de l'Essonne, 3 fois champion d'Île-de-France. Enfin bon, j'avais bien accroché avec le judo. J'ai fait un sport étude ensuite à Nîmes, toujours dans le judo. Et à l'école, j'en avais un peu rien à foutre. Tu vois, mon truc, c'était je serais champion du monde de judo. Et tout le monde rigolait, tout le monde me disait tu n'y arriveras pas. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on était quand même beaucoup moins à être au niveau international. Et donc, on te montrait un petit peu du doigt, quoi.
Ok. Et jusqu'où t'es allé, d'ailleurs, en judo?
Bah, en fait, il me manque 17 points pour être troisième dan, donc je suis allé quand même assez haut.
Ah ouais.
Je suis jamais monté sur le podium aux France. J'ai fait des podiums en Île-de-France, donc.
En quelle catégorie?
Benjamin, minime, cadet, junior et senior aussi. J'ai fait les régionaux, interrégionaux.
Ok.
Mais j'ai jamais réussi à monter sur le podium. Ma meilleure place aux France, c'était 6, quoi. Enfin, d'ailleurs, en judo, tu sais que t'as 2 troisièmes, 2 cinquièmes. Voilà. Ouais. Donc, j'ai pas réussi à passer la marche. Alors, peut-être que j'avais pas encore la tête ou je sais pas. Enfin, peut-être pas l'encadrement. Ça, c'est vachement important. Mais bon.
Et tu penses pas aussi qu'il y a une notion de morpho-anatomie et qu'il y a quand même des physiques qui sont un petit peu plus disposées? Tu vois, j'en parlais récemment avec une rugby woman. Et elle m'a dit, moi en fait j'ai eu une chance de dingue, c'est que je suis tombé sur le sport, un des seuls sports que mon corps me permet de faire. Et finalement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Tu vois, le corps est prédéterminé. Tu vois, tout le monde ne peut pas avoir le physique du Usain Bolt ou.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais bon, après, tu vois. Moi, je pense que j'ai quand même plus un gabarit de judoka que de coureur à pied, par exemple. Tu vois, je suis plutôt massif. Mais j'étais dans un tout petit club en région parisienne où le prof était pas pour la compète. J'allais quand même à l'INSEP 2 fois par semaine tout seul. Tu vois, j'avais 15 ans, j'y allais tout seul. C'était chaud, quoi. Mais bon après, il y a aussi un facteur chance des fois.
Et t'étais dans quelle catégorie de poids?
Alors j'ai tiré quand j'étais jeune en moins de 75 et après en moins de 78. Mais maintenant ça n'existe plus. Les catégories ont quand même changé et ça n'a plus rien à voir. Et d'ailleurs quand je regarde le judo à la télé, j'y comprends même plus rien, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec l'esprit de l'époque.
Ouais.
Et j'y étais encore hier sur le tatami puisque un de mes meilleurs potes avec qui j'étais en sport-études est maintenant entraîneur national et donc j'étais encore à l'INSEP hier, tu vois, avec lui sur le bord du tatami.
Trop cool. Il s'appelle comment?
Il s'appelle Paul-Thierry Pesquier. C'est un grand spécialiste de la physio, de la préparation physique et tout ça.
Ok.
Puis c'est surtout un bon pote. Trop bien.
Et comment est-ce que t'as découvert le triathlon? Comment est-ce qu'on passe du judo au triathlon? Alors je sais pas si le bon s'est fait dans
vraiment par hasard. Alors parallèlement au judo, je faisais du cyclisme dans les catégories minimes cadets.
Ouais.
Et donc un jour le triathlon est arrivé en France dans les années 80, début des années 80, quoi. Et c'était vraiment des images un peu hard, quoi, dont tout le monde se souvient. C'était Julie Moss qui était à quatre pattes à 150 mètres de la ligne et qui s'était fait dessus. Enfin bon, les images un peu. Tout le monde disait c'est quoi ce sport de taré. Et un jour, donc moi j'étais policier municipal à l'époque et je patrouillais dans le centre-ville et j'ai vu une affiche triathlon à Épinay-sous-Sénart, donc dans un village à côté, pas une ville à côté. Et je me suis dit, putain, je vais faire ça. Alors je savais pas nager. J'étais pas spécialiste de la natation.
Ouais.
J'étais cycliste et j'étais coureur à pied parce que pour le judo on court à pied, quoi.
Ouais.
Donc j'ai dit allez, j'y vais. Je suis sorti dans les derniers de l'eau. J'ai fait un gros vélo. Je suis remonté devant. Et après, à pied, j'étais déglingué, des crampes dans les jambes, enfin, folie, quoi. Et j'ai dit, putain, je vais m'entraîner comme une brute et l'année prochaine, je reviens. Et voilà. Et je suis revenu l'année d'après. Et l'année d'après, j'ai enchaîné donc ce courte distance, un moyenne distance, et j'ai fait le triathlon de Nice et d'Embrun. Donc la première année.
Direct, quoi. Ok. Donc, et c'était en quelle année?
C'était en Alors attends, mon fils est né en 88, ça devait être en 87, je crois.
Ouais. Il y avait déjà Embrun en 87.
Ouais, il y avait déjà en 87. Ouais. Ok. C'était les premières. Alors à l'époque, on faisait deux tours, on montait pas l'Isoard, on faisait deux boucles de 90 bornes. Et donc, on montait deux fois la côte de Chalvet, la fameuse côte de Chalvet, qui est plus dure que l'Isoard, quoi. Rien à voir, quoi.
Mais attends, il y avait combien de personnes qui faisaient ça?
On était pas mal, hein. Ouais, c'était assez, alors de mémoire, je saurais pas te dire, mais, ouais, on était nombreux, hein.
Ok. Mais je pensais que, tu vois, le triathlon était arrivé un petit peu plus tard en France
En fait, les premières grosses épreuves, ça a été les Mureaux, ici, en Île-de-France, Créteil. Et puis t'avais Embrun et Nice, bien sûr, voilà, qui était la référence, c'était Nice, quoi.
Ouais, bien sûr, ça reste le triathlon historique français. Ok, trop cool. Et tu fais cette en une année, tu te fais tout ça.
Ouais.
Et là, tu découvres le sport qui te correspond. Ou...
Bah, en fait, je découvre un sport dans lequel je me régale parce que je trouve que l'ambiance est super sympa. Enfin, à l'époque. L'ambiance était super sympa.
Oh, elle est toujours maintenant. Elle a un peu changé.
Un peu moins, mais enfin, ça dépend des distances, en fait. Ouais. Et ouais, il y avait vraiment une bonne ambiance. Tu pouvais parler à l'époque. Moi, j'ai fait les championnats du monde à Avignon en moyenne distance avec Marc Allen qui était là. Ouais. Et dans le parc à vélo, tu pouvais aller parler avec lui. Il y avait Yves Cordier qui était la référence en France. Mmh. Tu pouvais parler avec lui. C'était des mecs super open, quoi, tu vois. Et ça faisait de ce sport un sport fun et abordable, quoi.
Puis c'était encore un sport peut-être sûrement amateur où il y avait voilà les gens y allaient c'était des férus de sport de fond et qui allaient pour s'éclater et se ratatiner un peu la tête
c'était vraiment le bon temps et vraiment c'était vraiment super sympa, quoi.
Ouais. Et tu pensais à peut-être atteindre le haut niveau
Alors pas spécialement, mais je m'étais dit bon, je vais essayer d'aller jusqu'où je peux, quoi. Quand c'est un sport un peu jeune dans le pays, tu te dis on va bien voir, quoi. Ouais. Je continuais à faire un peu de judo, mais moins. Voilà, j'avais plus la même motivation. J'avais passé mon brevet d'état, donc j'avais moins la même motivation compète. Ouais. Et je me suis dit on va découvrir ce sport, quoi. Et j'ai découvert.
Et donc suite à ça tu fais Embrun. Franchement, quand la première année tu fais Embrun, mais il reste quoi après comme défi? Là t'as fait tout d'un coup. Moi je comprends qu'aujourd'hui tu me dises là je me lance encore dans un défi complètement taré, parce que c'est normal, quoi.
En fait je me suis rendu compte que tu vois, je faisais les épreuves et je finissais jamais vraiment cuit, quoi. Je me régalais, mais je finissais pas lavé. Et deux ans après, c'était les débuts du d'émission Téléthon en France, hein, ouais. Dans les années 88 à peu près, la même période. Et en regardant le Téléthon, j'ai dit, tiens, si je faisais un truc. Et donc, je dis à mon ex-femme, tiens, si on faisait un truc, c'est bien, on a des enfants, on sait jamais, il peut nous arriver quelque chose, et tu vois, ça serait bien de faire quelque chose. Elle me dit, je sais pas, vas-y. Donc, je réfléchis. Et je me rends compte qu'il existe un record du monde des 24 heures à l'époque. Et le Téléthon, ça dure 30 heures. Donc le mec, c'est un Français, mais il vit aux États-Unis. Donc je lui envoie une lettre. À l'époque, il n'y avait pas de mail, hein, donc j'envoie un courrier. Et il me répond en m'expliquant un petit peu comment il a monté son record et tout ça. Et je me dis, putain, allez, le Téléthon, ça fait 30 heures. Je vais faire 10 heures de natation, 10 heures de vélo, 10 heures à pied. Et tout le monde me dit, mais t'es complètement givré, tu vas jamais y arriver. Et j'ai dit, tata. Et puis moi, plus on me dit, tu vas pas y arriver, et plus ça me motive. Et je suis allé voir le maire de la ville, j'y ai proposé. Il m'a dit, ce serait sympa. Je suis allé voir 2-3 sponsors pour avoir un peu de matos, monter le truc, tout ça. Et on a monté une grosse, grosse organisation. Enfin, sur la ville, hier, c'est dans l'Essonne, c'est 33 000 habitants, tu vois, donc c'est une bonne petite ville quand même.
Ouais, ouais.
Et on a monté un truc, les écoles sont venues participer, enfin bon, c'était un truc génial.
Trop cool.
Et j'ai tapé le record du monde, quoi. Et de là, j'avais trouvé ma voie, parce que finalement, je me sentais super bien dans ce truc-là. Et j'ai dit, allez, vas-y, fonce, c'est parti, quoi.
Ok, non, génial. Et donc, c'est à ce moment-là, peut-être que t'as un peu le déclic et que t'as envie de te lancer dans plus de défis, ou... Ou est-ce que tu l'avais un petit peu avant ce...
Alors en fait, je savais pas que j'avais ces capacités d'endurance. Tu vois.
Ouais.
Pour te dire, quand j'étais militaire, pour pas faire le semi-marathon régimentaire, j'avais tiré au cul et tout ça. Parce que j'étais plutôt coureur de 100 mètres. Enfin, voilà.
Ouais.
Et voilà. Et si on m'avait dit un jour tu vas courir 200 ou 300 bornes, j'aurais dit ça va pas la tête. Quoi, donc c'est vraiment le gros clin d'œil. Et je me retrouve là-dedans et puis je me dis bah ouais c'est bien. Et après un défi en appelant un autre. Et comme tu peux jamais faire moins que ce que t'as fait la truc d'avant, bah à chaque fois c'est toujours plus. Et puis, ouais. Et puis après on rentre dans la démesure. Quoi.
Ouais c'est clair. Et quand tu fais ce premier défi, qu'est-ce que t'apprends sur toi-même? Est-ce que t'apprends encore des choses?
Alors j'apprends que j'ai un mental de dingue.
Ouais.
Parce que pendant la course à pied, donc ça fait 2-3 heures qu'on court.
Donc c'était à 23 heures d'effort quoi.
23 heures d'effort et je fais une hypoglycémie, mais alors un truc de malade quoi. J'ai les yeux à l'envers, je vois plus clair, je reconnais pas les gens. Et là on me gave de sucre et de machin, enfin je reprends. Et on me dit continue à marcher, parce qu'il faut surtout pas rester sans rien faire. Marche sur le parcours et ta glycémie va se rebecter quoi.
Ok.
Alors,
je savais pas ça. Quand tu faisais une hypo, il fallait continuer un peu à marcher.
En fait, souvent, quand un athlète fait une hypo sur une course, on dit ça y est, c'est fini, il a fait une hypo.
Ouais.
Moi, je sais qu'une hypo c'est rien finalement. Enfin, maintenant, je sais que c'est rien.
Ouais.
La première fois, j'étais pas fier. Hein. Et donc, j'ai marché pendant peut-être quoi une heure et demie, le temps que le taux de sucre il se rééquilibre. Et au bout d'une heure et demie, bah c'est revenu. J'ai quand même recommencé à recourir. Et puis sur les 10 heures, j'ai fait 91 km, quoi, un truc comme ça. Donc, en plein hiver, il faisait moins 2, moins 3, tu vois. Donc, c'est pas trop mal, quoi. Voilà.
Okay.
Mais comme quoi, maintenant, je sais. Donc, j'ai appris ça sur moi. J'ai appris que le mental, c'était la chose la prioritaire dans ce genre de sport. J'ai appris que le judo, ça m'avait servi à ça.
Ouais.
À apprendre sur soi, à travailler sur soi, etc. etc. Toutes ces valeurs que tu apprends dans le judo. Elles te servent après dans ce genre de discipline, quoi. Parce que tu vas au-delà de toi-même, parce que tu, voilà.
Ouais, et puis il y a aussi, une notion d'humilité aussi, de se dire, voilà, finalement.
Ouais, c'est ça, ouais, jamais baisser les bras, jamais rien lâcher, quoi. Toujours.
Et moi, j'ai une petite question, là. Tu dis que tu contactes, cette personne qui a déjà un record sur 24 heures. Mais à l'époque, tu vois, bon, il y avait quelques athlètes qui faisaient de l'extrême endurance, mais c'est pas aussi populaire que maintenant, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de sportifs qui se lancent des défis complètement fous. Et du coup, ma question un peu, c'est quel était à l'époque l'état de l'art un peu sur qu'est-ce que le corps peut faire, quelles sont les personnes qui peuvent un peu t'inspirer s'il y en a d'autres, et qu'est-ce que tu sais en fait sur toi-même et qu'est-ce qu'on sait sur les limites du corps humain?
Bah en fait on sait pas grand-chose. On part vraiment dans l'inconnu. Et je t'avoue qu'aujourd'hui encore, je sais pas où sont mes limites quoi. Et
ouais.
C'est pour ça que toujours je vais chercher un peu plus loin parce que je me dis il y en a encore en dessous, tu vois, malgré les trucs tarés que j'ai fait et que d'autres ont fait sur lesquels tu t'inspires aussi quoi, hein. Tu regardes un peu ce qui se fait autour, tu t'inspires de même si on n'a pas tous la même physiologie. Tu t'inspires quand même de ce que les autres sont capables de faire. Et on tâtonne encore, quoi. Alors maintenant, c'est un peu plus poussé. Tu vois, par exemple, sur le prochain défi, j'ai un suivi à l'INSEP. Donc, on fait des études sur le sommeil. Avant, c'était un peu archaïque. Tu dormais comme tu pouvais. Maintenant, ton sommeil, il est plus ciblé pour qu'il soit vraiment récupérateur. On fait des études sur la diététique, sur la physiologie, etc. Et ça permet quand même d'avancer. Moi, j'ai un âge avancé, hein, et finalement, tu t'aperçois que t'es toujours performant parce que t'es vraiment sur le fil du couteau et tu sais gérer ton corps, tes sensations. Voilà, et peut-être que des jeunes de 20, 30 ans qui sont censés être beaucoup plus forts et plus en forme que des vieux comme nous, on sera peut-être plus performant parce qu'on partira moins vite, parce qu'on sera plus dans l'économie, parce qu'on saura où on va surtout. Et voilà, tout ça, c'est vachement important, quoi. Hein.
Ouais. Mais moi, il y avait une question, bon, je pourrais te la poser plus tard, mais là, elle me démange un peu. C'est de savoir, qu'est-ce que tu vas chercher dans tous ces défis? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux te prouver? Est-ce que quelque chose que tu veux prouver à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu t'ennuies?
Ouais, alors je m'ennuie peut-être un peu. En fait, si tu veux, moi j'ai besoin pour faire du sport, j'ai besoin de défis. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à dire je vais m'entraîner si j'ai rien derrière. Tu vois, je suis plus là-dedans. Et je dis souvent, je tire mon chapeau aux gens qui tous les dimanches matins vont rouler avec les potes et tout ça, tu vois, qui pleuvent, qui ventent, qui neigent, ils y vont. Moi, je leur tire mon chapeau parce que ça, je sais plus faire. Tu vois, si j'ai pas un objectif, je sais pas faire. Par contre, si j'ai un objectif, oui, je vais être capable d'aller rouler de jour comme de nuit, qui pleuve, qui vente, qui neige, peu importe. Mais mais j'ai besoin d'une carotte, quoi. Et la carotte, c'est un défi. Mais alors après, où je suis un peu con, on va dire, ou taré, je sais pas, c'est que si ce défi, il faut que ce défi, je l'ai jamais réalisé et que personne l'ait jamais réalisé. Tu vois, si c'est pour faire un truc, souvent, tu vois, on m'a dit, voilà, en triathlon, il existe un truc qui s'appelle Arch to Arch. Tu pars de Londres, tu t'as entendu parler certainement. Voilà,
jusqu'à Paris, ouais.
Voilà, tu viens jusqu'à Paris. Et on me dit, pourquoi tu fais pas ça? Bah parce que ça a déjà été fait je sais pas une quinzaine de fois je crois à peu près bah voilà moi ça a plus d'intérêt enfin tu vois pour moi ça a pas d'intérêt alors oui pour la perf peut-être mais pour moi ça a pas d'intérêt je veux faire des choses qui ont jamais été faites là mon prochain défi c'est 100 Ironman en une année ça a jamais été fait voilà bon et ça me branche parce que voilà.
Bon bah tu t'annonces un petit peu le prochain sujet. Ouais. Tu parles un peu de ton prochain défi. Tu l'as dit donc 100 Ironman en une année. Alors tu veux les faire du coup de mai 2020 jusqu'à mai 2021 ou est-ce que tu te laisses juste ou tu te laisses un peu moins de temps et tout
calé en deux. L'idée c'est de faire de mai 2020 à mai 2021 sachant que pour corser un peu la difficulté je l'ai fait sous forme de DK Ironman, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais nager 38 km, je vais faire 1800 bornes de vélo et 420 à pied. Okay. Et pour corser encore un peu plus, on va faire le vélo sur Home Trainer et la course à pied sur tapis. Donc là, il y a un vrai travail
mentale.
Psychologique ouais. supplémentaire à l'effort physique. Donc ça va se boucler à peu près en 7 jours. Si j'avais fait un Ironman par jour, par exemple, pendant 100 jours, ça ferait 100 jours. Si je fais 10 DK, je peux faire peut-être moins de 70 jours, tu vois.
Donc, ouais, mais sachant qu'il faut quand même dormir à un moment.
Voilà. Ouais. Ouais. Donc il y a toujours un défi dans le défi. Il faut toujours chercher un petit peu.
Comment est-ce que t'es venu à ce défi-là? Elle vient d'où l'idée? Quelle est la personne qu'il faut aller voir pour lui reprocher de t'avoir donné ce pari fou?
Alors, au départ, l'idée c'était de faire un DK Ironman sur les 7 continents.
Okay.
Mais budgétairement, c'est monstrueux. Il faut prendre des avions, machin. L'empreinte carbone, elle pleure. Enfin bon, voilà. Donc,
parce que tu viens avec des gens, que tu viens pas tout seul.
C'est
quoi.
La folie, quoi. Parce que tu peux pas faire un DK Ironman tout seul. C'est pas possible.
Ouais.
T'es des gens derrière toi. Tu dors 2 heures par nuit, à peu près. Donc voilà, il faut que t'aies des gens qui soient susceptibles de t'accompagner. Pour surveiller que tu fasses pas un malaise, que tu dormes un peu, enfin, etc. Voilà. Donc c'était pas jouable. Et quand j'ai fini l'année dernière mes 12 Ironman en 12 jours à la foire de Paris là, sur Home Trainer, et les gens de la Légion pour qui je sers de un peu de fer de lance, enfin de faire valoir, enfin tu vois, d'image d'ambassadeur. Ils m'ont dit, bon, tu nous fais quoi l'année prochaine? Et que la direction de Foire de Paris a dit, bon, Pascal, tu fais quoi l'année prochaine? Cette idée de.
Après 12 jours.
DK Ironman est revenue un peu au truc. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, au lieu d'en faire 6, finalement, en faire 10.
Ouais.
Les faire sur une année, les faire en statique à chaque fois. Ça demande beaucoup moins de budget. Et puis voilà. Et je suis parti là-dessus. J'ai lancé l'idée sur ma page fan sur Facebook. Tout le monde m'a dit ouais, vas-y, on y va, on fonce. Bah du coup j'ai foncé quoi. Et puis on en est là aujourd'hui.
Ok, d'accord. Donc si vous avez une mauvaise idée à donner à Pascal, il la teste sur Facebook et après on est parti quoi. Ok, donc l'idée elle vient de là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se prépare à la fois physiquement, et aussi au niveau de la logistique. Moi, je suis toujours impressionné par tous ces projets, par le volume de travail qu'il faut appliquer, quoi.
Alors physiquement, je vais dire que j'ai la chance, comme beaucoup d'athlètes qui font ce genre de choses, de me connaître parfaitement. Je sais où je dois bosser, enfin je sais sur quoi je dois bosser. Je sais que j'ai pas besoin de faire des milliers d'heures parce que voilà, mon corps il est habitué. Le cerveau et le corps a une mémoire. Donc ont une mémoire, et pour le coup ce que tu as déjà fait, ils sont susceptibles, enfin les deux sont susceptibles de le reproduire. Ouais. Il suffit juste de leur amener les bonnes billes. Alors les bonnes billes, c'est quoi? Un peu de préparation physique, enfin un peu d'entraînement quand même, sans que ce soit sans que ce soit monstrueux non plus.
Ouais, mais je veux dire, attends, avant de toi, tu aujourd'hui t'as des années et des années d'expérience.
C'est ça, ouais.
T'as fait, voilà, t'es monté en volume progressivement,
ouais,
c'est ça,
ouais.
Aussi,
ouais,
tu vois.
Ouais,
donc
ouais, le volume il est acté.
Il est à travers les années.
Voilà, ouais, c'est ça.
Il est pas,
là par exemple entre janvier et mai. Je vais avoir fait, je sais pas, 5-6 000 kilomètres en vélo seulement, tu vois, c'est pas énorme. Je vais avoir fait à peut-être 500 ou 600 bornes à pied, et puis peut-être 200 en natation. C'est pas énorme, tu vois, c'est pas. Je veux dire, un nageur de l'équipe de France, il nage 200 bornes par mois, quoi.
Ouais, ouais, je sais.
C'est pas exceptionnel. Mais mon corps ayant l'habitude, et surtout. Il va y en avoir 10 à faire dans l'année, donc faut pas se griller trop, tu vois, dire je fais une grosse prépa et finalement après le deuxième je suis cuit, quoi.
Ouais.
Il faut garder en tête qu'il y en a 10 à faire, et après la préparation organisationnelle, ouais, là aussi c'est un gros truc, mais j'ai la chance quand même que la Légion me file un gros coup de main. Eux s'occupent beaucoup de la logistique, donc mise à disposition du car podium, la préparation, le contenu, etc. Par exemple, sur la foire de Paris, on va avoir pratiquement un stand qui va faire 900 mètres carrés. Enfin, c'est énorme. Quoi, tu vois,
ouais. Ah ouais, juste pour toi.
Tableau, quoi, voilà.
Ouais, trop bien.
Donc, ce genre de truc, une fois que c'est écrit, que c'est calé, tu peux le reproduire de ville en ville, etc. Donc, ouais. Mais il faut quand même trouver des budgets. Ça reste compliqué. Et puis après, voilà, les gens qui t'entourent, faut que les gens qui t'entourent, ça soit des gens de confiance, normal, hein, c'est ton équipe. Il faut finalement que tu aies rien besoin de leur dire. Eux doivent voir
tout de suite, ouais, ce qu'ils doivent faire.
Si tu as besoin de quelque chose, voilà. Bon, les gens avec qui je bosse me connaissent par cœur. Tu vois, même mon ex-femme, on est séparés depuis un an. Elle m'a dit, si tu as besoin, je suis là, je viens. Elle me connaît par cœur. Elle est derrière moi, elle me voit pédaler. Elle sait à ma manière de pédaler si je suis bien ou si je suis pas bien. Tu vois, c'est
ouais.
Bon. Les gens te connaissent et moi, alors. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Je suis peut-être un athlète un peu chiant parce que finalement je demande jamais rien, je me plains jamais, je pédale et point, quoi. Alors des fois, bon, j'ai soif, alors je dis tiens, tu me donnes de l'eau, mais les gens savent et ils viennent, ils me disent tu as faim, t'as soif, voilà. Mais je demande pas, et je me plains pas. Si j'ai mal, je vais pas dire ah j'ai mal. On sait que dans ce sport, enfin dans ces sports,
ouais,
on va avoir mal. Donc ça va servir à rien pendant 6 jours
répéter.
De dire j'ai mal, tu vois.
Ah ouais.
Donc j'ai pas mal, voilà, et c'est tout, quoi. Et puis en France après.
Ouais. Et t'as mentionné un petit peu ton équipe. Elle est composée de combien de personnes et qu'est-ce qu'ils font?
Alors,
leur rends un petit peu hommage parce que c'est je pense que c'est un sport d'équipe, tu vois, ce genre de sport,
ouais, ouais.
Et qu'on peut pas y arriver tout seul, quoi.
C'est vraiment une discipline où tu peux pas être performant tout seul. C'est pas possible. Donc j'ai un.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
J'ai un gars qui me suit depuis plusieurs années, qui s'appelle Fabien, qui est un, pas dire l'homme à tout faire, mais c'est lui qui gère l'alimentation, quand je sors de l'eau, qui prépare mes fringues pour le vélo. Enfin, tu vois, il est toujours là. C'est lui qui va être un peu la cheville ouvrière de de tout ce qui se passe autour. Il sait tout, il connaît tout. Voilà, j'ai rien besoin de lui demander. Ou si je le regarde, il sait ce que je vais lui demander, tu vois. Donc, voilà. Donc, j'ai lui, Fabien. J'ai un speaker qui me suit depuis 30 ans. C'est toujours le même. C'est le speaker officiel de la Fédération Française de Triathlon. Okay. Ce gars-là, c'est moi qui l'ai mis au fait de devenir speaker, parce qu'en fait, il était flic avec moi à l'époque. On se voyait sur des compètes et il était toujours en train de faire le con. Et un jour, j'ai dit, écoute, Alain, si tu veux, je vais faire mon premier corps, prends le micro. Il m'a dit, j'ai jamais fait. Essaye, tu verras bien. Il a essayé et il a jamais lâché le micro. Aujourd'hui encore, tu vois, il continue à speaker comme c'est moi. Et maintenant, il anime des épreuves nationales, internationales de triathlon, etc. C'est devenu son job, quoi, tu vois.
Génial. Oh, génial.
Donc, il est là, il me connaît par cœur. Il a pas besoin de faire de fiches, il sait. j'ai une photographe qui est là en permanence, Laurence. J'ai son fils qui est un super vidéaste. Il est jeune, mais il fait des super montages. Donc, parce que, tu sais, hein, les réseaux sociaux, c'est hyper important. Les gens demandent de l'image tout le temps, tout ça.
Ouais.
Donc, on essaye de partager, voilà. J'ai un community manager. Et puis après, j'ai une ou deux autres personnes qui sont là plus ponctuellement, pas en permanence, mais qui sont là ponctuellement. J'ai pas de toubib, j'ai pas de kiné, j'ai rien, pas de massage, rien.
Ah ouais, okay,
je fais
du
à
tout,
la dure, moi je fais à la polonaise. Donc, par contre, j'ai un super ostéo que je vois avant et après.
Ouais.
Parce que ça, c'est important.
Et il te remet en place un peu.
Ouais, en général, il voit tout de suite si je suis bien ou si je suis pas bien. Et si vraiment, tu vois, là par exemple, sur Foire de Paris, c'est pas très loin. Si j'ai un problème en cours de route, je l'appelle et lui il est ici à Boulogne. Je l'appelle, il vient et voilà. Ouais. Et quand tu fais une séance de CO en général, ça tire bien sur la couenne et après t'es pas très efficace quoi. Donc, vaut mieux essayer de dérouler pendant tout le défi et à la fin tu vas le voir, il te remet d'aplomb et c'est tout bon quoi.
Ouais, parce que les gens se rendent pas compte, mais sur le triathlon il y a quand même il y a d'une part le vélo effectivement qui peut être un peu déséquilibrant parce qu'on a tous une jambe qui pousse plus fort que l'autre et le dos qui file un peu d'un côté. Et puis la natation ça va encore, mais après il y a toute la partie course à pied ou avec
les impacts. Traumatisant, là.
Et là tu te tasses après avoir créé le déséquilibre sur le vélo, tu vas bien le tasser donc.
Ouais, tu te tasses et là tu bouffes du muscle. Autant en vélo, tu vois, tu vas pas perdre de poids, rien. Pas beaucoup du moins, mais en course à pied, ça bouffe du muscle, c'est la folie quoi. Même si t'arrives à futer, tu repars, tu ressembles à un cadavre quoi. C'est vraiment la folie. La course à pied, ça et là 10 marathons, on parle de 10 marathons quoi.
Okay.
Ça bouffe vraiment de la masse musculaire.
Ouais, c'est clair. Et là donc du coup sur ce défi là, tu vas en faire 10 en un an. Est-ce que t'as déjà prévu le programme? Est-ce que tu peux en dévoiler quelques petites surprises
pour les
auditeurs?
On a 7 ou 8 dates qui sont déjà fixes, qui sont fixées. La première dans Foire de Paris. La deuxième, 40 jours plus tard à peu près, à Alès, dans le Gard.
Okay.
La troisième, toujours dans le Gard, à Quissac, sur une feria, sur une fête votive, avec toute l'animation qui va autour, tu sais, les taureaux lâchés dans les rues, tout ça, enfin un truc super cool avec des orchestres tous les soirs, voilà. Donc toujours dans le sud. Après on a Foire de Marseille au mois de septembre, octobre-novembre. On n'aura rien de calé encore. On aura peut-être un truc en Guadeloupe. On attend les élections pour savoir si le gars qu'on a là-bas sera élu, et s'il est élu, on en fait une en Guadeloupe.
Okay.
Après décembre le Téléthon, donc ça sera hier. Dans l'Essonne, et le clin d'œil, c'est que finalement, ce sera où j'ai battu mon premier record du monde il y a tout juste 30 ans, quoi. Tu vois, pour le Téléthon, les mêmes dates, le même endroit. J'ai trouvé que ça pouvait être un clin d'œil sympa, et donc voilà, donc je serai ailleurs. Janvier, février, on n'a encore rien. Mars, foire de Lyon, et avril, foire de Paris pour finir, quoi, pour boucler. Voilà,
donc ça fait un très très joli programme. En tout cas, j'invite fortement les auditeurs à venir t'encourager et t'envoyer des petits messages de soutien pendant cette année. Sachant qu'en plus vous êtes nombreux à écouter, je sais que vous êtes très nombreux à envoyer des messages, et ça fait super plaisir à chaque fois. Donc, continuez à le faire. C'est vraiment pour ça que ce podcast existe aussi. Après, je vais pas te demander ce que tu vas faire après, mais parce que j'imagine qu'il y aura sûrement beaucoup de repos et encore un nouveau défi. Ma question c'est avant, c'est quoi tes autres corps, c'est quoi les autres folies que t'as fait avant tout ça?
Alors, donc on le disait en début, hein, donc j'ai été 5 fois champion du monde en ultra triathlon. Mon premier titre, c'est sur un DK Ironman, et déjà, tu vois, c'était déjà ça.
Et ça existait, du coup.
Ça existait.
Vous êtes combien?
Il en existait un tous les 2 ans, à peu près, à l'époque. C'était toujours au Mexique.
OK.
Et puis après, ça, il y en a eu un en France, 2-3 ans après. Et après, il y en a eu moins, parce que c'est une grosse organisation, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui le font. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on doit être moins de 25 athlètes à en avoir fait au moins un dans sa carrière.
D'accord.
Ah, et ouais, je vais en faire 10 dans l'année, pour me donner une idée. Donc, ouais. C'est pas énorme. Et puis après, bah, en fait, j'ai fait des défis. Alors oui, j'ai fait bien sûr des doubles Ironman, des triples Ironman, etc., etc. Le circuit Coupe du Monde plusieurs fois. Et puis je faisais toujours des trucs à côté, un peu dingo. Soit ponctuellement parce qu'on me demandait, soit donc j'ai fait par exemple pour le Téléthon, je le disais, mon premier record du monde, 10 heures dans chaque discipline. L'année d'après j'ai fait 6 Ironman parce que le DK n'avait pas encore été fait, donc je l'ai fait pareil pour le Téléthon. J'ai battu les records du monde des 6 jours sur home trainer, alors 6 jours avec un vélo avec des railleurs et 6 jours avec un vélo à pignon fixe.
Donc,
j'ai fait plus de 3000 km à chaque fois.
Waouh. Ok.
Voilà, donc
500 bandes par jour, du coup. Ouais.
Et puis, ouais, enfin voilà, plein de conneries dans ce style-là, quoi. Tu vois. Dès qu'il y a une idée un peu farfelue, on m'appelle. Alors j'ai fait des 24 heures aussi pour des animations ponctuelles dans des centres commerciaux, dans bon voilà, les gens qui voulaient. Vous pourriez bien nous faire une animation. Bon bah ouais, vous voulez quoi? C'est vrai que c'est pas des choses qui demandent beaucoup de préparation. Moi, j'arrive avec mes rouleaux, je pose le vélo dessus, je m'assois, boum, et je pédale, et vas-y, quoi.
Et c'est parti.
Ça fait une bonne anime. Les gens souvent viennent m'affronter, tu vois. On met un deuxième home trainer. Les gens montent dessus, et sur 1 kilomètre, ils m'affrontent à celui qui aura fait le kilomètre le plus vite, tu vois.
Ouais.
Donc, moi, ça me fait de l'anime. Et puis eux, ça leur fait un objectif et c'est marrant, quoi.
Bon, c'est pas trop recommandé pour la perte, étant donné qu'il faut plutôt de la régularité, mais au moins, toi, ça doit t'amuser.
Ouais, mais quand c'est
quoi.
Comme ça, quand il n'y a pas de record au bout, tu vois, tu peux te permettre de t'amuser.
Bien sûr.
Ouais.
Ça va. C'est cool. Et est-ce que tu as des secrets dans l'entraînement ou dans la nutrition, dans ta préparation? Est-ce que, on va dire, tu as des doctrines de vie un peu que tu t'es appliquées, tu vois? J'ai du mal à croire qu'on peut faire tout ça. En disant, moi je suis rien, je suis un citoyen normal, je m'entraîne juste, tu vois. Qu'est-ce que tu t'appliques dans ton quotidien?
Ouais, écoute, moi en fait, des secrets, j'en ai pas vraiment.
Enfin, il n'y a plus de secrets. On est à l'ère du digital, il n'y a plus de secrets.
Oui, mais quand je dis j'en ai pas vraiment, le premier secret c'est le sérieux. Autant, si j'ai pas d'objectif, je vais manger n'importe quoi, je vais faire un peu n'importe quoi. À partir du moment où je sais que je bosse sur un objectif, je vais faire hyper gaffe à ce que je mange. Je vais pas mélanger certains aliments. Je vais pas prendre de laitage. Il y a tout un tas de choses qui sont hyper importantes.
Tu peux détailler un peu cette partie sur la nutrition?
Au niveau des laitages?
Ouais, mais même tu dis pas mélanger certains aliments.
Ouais, par exemple.
Tu te mets à peser aussi.
Mon mode de fonctionnement, c'est jamais manger de sucre la journée. C'est-à-dire que je prends ce qui est sucré le matin au petit-déj.
Ouais.
C'est-à-dire à base de fruits, hein, donc c'est même pas du fructose, c'est même pas du sucre raffiné, hein.
Ouais.
Voilà, fructose, miel dans le thé, et après de la journée, je vais rien prendre de sucré. Okay. Je vais prendre des sucres lents, bien sûr, mais juste le midi, jamais le soir, parce que le soir, ton organisme il va le stocker, et on n'a aucun intérêt à ce qu'il soit stocké. Donc, par contre, je vais prendre de la protéine le soir parce que la protéine, c'est un réparateur du muscle.
Ouais.
Et après les séances difficiles, ton muscle, il a besoin de se reconstruire et éventuellement même de se refabriquer. Donc, voilà, ce genre de choses. Tu vois, je prendrai pas mes protes le midi, je les prendrai le soir. Je prends aucun produit chimique, c'est-à-dire pas de vitamines sous forme médicamenteuse, Je vais tout chercher dans l'alimentation ou dans les compléments alimentaires, style levure de bière, germes de blé, qui sont bardés de vitamines et de...
Ouais.
Voilà. Donc ça, c'est hyper important. J'essaye de boire beaucoup, mais ça, c'est... Je dis ça, mais finalement, je bois pas assez et on est tous... Enfin, les sportifs sont souvent comme ça et ils oublient de boire.
Donc, on l'est tous, voilà. Ouais, on l'est tous.
donc ça. Donc je le disais, pas de produits médicamenteux. Moi, je suis suivi par un naturopathe depuis 15 ans et ça fait 15 ans, j'ai pas pris ne serait-ce qu'une aspirine, tu vois. Et mon gamin a 5 ans. Il y a 6 ans, je dis pour quel âge il a. Et pour la petite anecdote, la semaine dernière, il s'est cassé le radius, donc le bras, l'avant-bras. Et au début, on s'est dit, il a mal, mais voilà, on savait pas trop ce que c'était. Et finalement, je l'ai emmené passer une radio qu'après 2 jours et demi, tu vois, il se plaignait pas plus que ça, et on s'est aperçu qu'il avait une fracture. Et depuis qu'il est né, il a jamais pris un cacheton. Et il a eu une fois un suppôt de Doliprane. C'est tout, il a jamais pris un cachet. Donc le toubib lui dit, tu veux un médicament pour la douleur? Il dit, bah non, ça va, j'ai pas mal. Tu vois. Donc en fait, on dit, moi, dans ce que je fais, je dis toujours, la douleur n'est qu'une information. Si tu es capable de compartimenter ton cerveau, bah t'es capable d'oublier la douleur. Quoi, voilà.
Ouais, c'est clair.
Donc t'as pas besoin de produits chimiques et dans le naturel, on trouve tout et c'est génial, quoi.
Ouais. Je te disais juste avant qu'on démarre l'interview que moi j'ai ma nouvelle lubie, c'était les douches froides, et ça m'a appris un truc vraiment formidable à propos de moi, c'est qu'une fois que tu te concentres sur ta respiration, sur ton corps, tu oublies complètement la douleur et tu peux passer après n'importe quoi. Donc je suis assez d'accord avec ta philosophie que les produits chimiques c'est juste une solution de raccourci en fait pour que ça soit plus facile et
c'est la facilité
un peu.
Et souvent. Tu vois, souvent, quand tu fais des perfs comme ce que je fais, les gens ont tout, enfin, le truc qui revient, c'est, ouais, il est chargé, quoi, tu vois. Voilà.
Ouais.
Bon. Cette année, je suis super content parce que, comme j'ai un suivi à l'INSEP et que je vais être suivi à l'INSEP du premier jour, enfin, du premier DK au dernier DK et avant et après, ça donne un gage de propreté, tu vois. Au moins, les gens pourront pas dire, ouais, faut être chargé, parce que finalement, dans ce genre de truc, s'il fallait être chargé, si d'aventure il fallait être chargé, ça serait quoi? Ça serait pour lutter contre le sommeil, on prendrait des emphètes. Mais imagine, au bout de 3 jours, ton corps, où il irait avec des emphètes, quoi. C'est injouable. Il faut être en pleine possession de tes moyens psychologiques et les moyens physiques. Bah, c'est automatique, quoi. C'est pas comme les antibiotiques.
N'hésite pas à le coller légèrement contre le menton, parce que le micro. Ouais, ouais. T'inquiète. Y a d'autres choses que t'as mis en place? À part la nutrition, là, on a parlé un peu de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le sommeil, la préparation, le mental?
Alors, le mental, oui, ça, c'est une grosse part, hein, aussi. Quand tout à l'heure, je parlais de compartimenter la douleur, ça fait partie du mental. Ça, je le travaille pas spécialement parce que, et là, on revient au judo. Je pense que quand t'es judoka, t'as un gros mental.
Enfin,
quand t'as fait du judo à un certain niveau, t'es obligé d'avoir un gros mental, quoi. Donc ça, finalement, j'ai pas besoin de le travailler, c'est presque inné, on va dire. Le sommeil, ça se travaille, ouais. Le sommeil, pour te donner un exemple, là on est à 2 mois du début, je vais commencer à faire toutes les semaines une nuit blanche par semaine.
Ah ouais?
Ouais.
Okay.
Et je la décale d'un jour en arrière. C'est-à-dire que, par exemple, si cette semaine, je vais pas dormir le mercredi, la semaine d'après, ce sera le mardi, puis le lundi, puis le dimanche, tu vois. Je recule. Donc, en fait, c'est 6 jours.
Ouais.
Et quand ma nuit blanche est terminée, le matin, je pars à l'entraînement tout de suite. Tu vois?
Ok.
Donc, je pars à l'entraînement et je refais une journée normale jusqu'au soir, 22h, où je vais me recoucher, quoi. Donc, je fais une journée complète, une nuit complète, plus ma journée, et je vais me coucher que le soir. Donc j'habitue mon organisme comme ça à être
à manquer de sommeil.
Pas en dette de sommeil, mais à dormir moins. Voilà.
Ouais. Ok.
Ça fait que quand pendant le défi je vais dormir que 2 heures par nuit, l'organisme sera, enfin, on peut pas dire habitué parce qu'on n'est jamais habitué, mais il aura des repères à ce niveau-là, quoi. Voilà.
Ouais. Et du coup, tu fais des exercices pour apprendre à t'endormir rapidement ou tu fais pas de micro sieste, toi?
Alors là encore. J'ai encore la chance de m'endormir tout seul. Je veux dire, tu me poses là à côté de l'arbre, tu reviens dans 10 minutes, je dors, quoi, tu vois. C'est ça. Donc c'est génial parce que dans notre discipline, la récup est hyper importante et le sommeil est hyper important. Si tu t'endors en 2 minutes, c'est génial. Et les tests qu'on fait avec l'INSEP m'ont permis de cibler plus encore l'heure à laquelle je dois dormir. Si tu veux, avant, je le faisais un peu au pif. Je me faisais à la sensation. Et là, on a ciblé l'heure, c'est-à-dire que entre 4 heures du matin et 6h30, c'est même pas la peine que je fasse un effort physique parce que je serai out. Enfin, tu vois, je serai pas, dans le tempo. Donc, on a ciblé que entre 4h et 6h30 du mat, à peu près, 7h, c'est le créneau dans lequel il faut que je dorme, quoi.
Ok.
Voilà.
Et ça, tu le sentais un peu avant ou?
Bah, avant, c'était un peu au pif. Des fois, tu vois, si par exemple, à 3h, j'avais envie de dormir, je dormais de 3 à 5 et à 5h, j'étais pas bien. Et souvent, en compète, je faisais une hypoglycémie le matin au lever du soleil. C'est marrant, hein.
Ok. Voilà,
même si j'avais bien mangé, à 6h30, 7h, quand le soleil se levait, je faisais une hypo à chaque fois, quoi.
Ouais.
Et en fait, c'était dû, bah, au fait que mon organisme était, c'était pas son, tu vois, c'était pas le moment où il était le plus efficace, quoi.
Okay.
Maintenant, je le sais. Je fais plus d'hypo. Pas à cette heure-là, du moins. Donc, okay. Ouais, ça, c'est un vrai plus, quoi.
Génial. Bah, écoute, merci. C'est ultra instructif. Je suis passionné par le corps humain, je suis passionné par l'effort et tout. Donc, je savais pas qu'on pouvait se préparer comme ça. Et merci en tout cas de partager, tout ça. Si jamais des gens viennent me voir en me disant j'ai envie d'apprendre sur l'ultra effort, et ben je leur ferai écouter cet épisode parce que c'est passionnant. J'ai fait un petit peu le tour des questions que je voulais te poser en tout cas sur ce sujet-là. Et du coup, j'ai des questions qui reviennent un petit peu à la fin que les auditeurs m'avait proposé et est-ce que ça te dit de jouer le jeu? C'est des questions un peu, tu vas voir, très simples. Tu peux y répondre de manière très courte ou très longue, c'est comme tu préfères. La première, c'est de savoir quelle est une bonne journée pour toi.
Une bonne journée.
Ouais.
Une bonne journée, c'est une journée où je prends du plaisir, avec ou sans sport. Souvent, c'est avec sport.
Ouais.
Mais où je prends du plaisir, où je me prends pas la tête, où tu vois, où tout va bien, où tout déroule, quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est une bonne journée pour moi. Quand il commence à y avoir un peu de galère. C'est une mauvaise journée. Ouais.
Une journée simple où tout se passe bien, voilà, juste sans accro. Quoi.
Voilà, tu te lèves, tu déjeunes tranquille, tu vas te faire une séance de natation, tu rentres, tu téléphones pour trouver des partenaires, on te répond positivement, ça c'est une bonne journée. Si on te dit bien pourri. Mais franchement, moi je suis quand même un mec hyper positif et c'est rare. C'est rare que je me prenne la tête pour quoi que ce soit.
Okay.
Mais bon, la bonne journée, c'est quand même ça où on se fait plaisir. Ouais.
Ok. C'est quoi ton meilleur souvenir? Ton meilleur souvenir de sport?
Ah, mon meilleur souvenir, c'est. Ah, j'en ai deux. J'ai le jour où j'ai eu ma ceinture noire quand j'avais 15 ans, parce que voilà, là, c'était mon premier rêve. Et le jour où je remporte mon premier titre de champion du monde. Je parle même pas de mon premier record du monde, je parle de mon premier titre de champion du monde. Ouais.
Ouais.
J'en avais chié. Et c'était beau, quoi. C'était. En plus. Pour l'anecdote, Greg LeMond m'avait offert son maillot de champion du monde à l'époque,
ouais.
En disant peut-être qu'un jour tu le porteras. Et je l'avais emmené avec moi, je te promets, je l'avais emmené avec moi au Mexique. Et quand je dormais mes 2 heures à chaque fois, je dormais avec le maillot de champion du monde à côté, quoi. Et quand je l'ai remporté, en montant sur le podium, j'ai mis le maillot de Greg LeMond. Enfin, j'ai pas mis le maillot qu'on me donnait, j'ai mis le maillot de Greg LeMond. Donc ça c'était un vrai rêve. C'est un super souvenir de sportif. Ouais.
Ok. À l'inverse, est-ce qu'il y a un pire souvenir que tu pourrais nous raconter? Un souvenir un peu dur dans le sport?
Je crois que même les pires souvenirs peuvent être des bons souvenirs. Tu vois, par exemple, sur ce même championnat du monde, la dernière nuit, j'étais vraiment dans le jus et je voyais des dragons dans les arbres et tout ça. Tu vois, j'étais vraiment pas bien, quoi. Tu vois, j'avais des hallucinations. Donc ça, c'est pas un très bon souvenir, mais ça fait partie quand même globalement d'un souvenir positif. Donc ouais, j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs. Moi, pour moi, le sport, ça reste un plaisir. Et j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs. Même une gamelle, machin, tout ça, ça reste. Je tire toujours du positif, du négatif. Voilà.
Ok. C'est une très bonne philosophie. Ouais, exactement. Ouais. T'as bien raison. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont changé la vie?
Greg LeMond.
Ouais.
Michel Drucker. J'ai eu la chance de rouler avec lui il y a, je sais pas, 20 ans en arrière, peut-être. Et il m'a dit, ouais, Pascal, si un jour t'as besoin, t'hésites pas. Et moi, j'osais pas, c'est Michel Drucker, je voulais pas le déranger, tu vois.
Ouais, ouais.
Et on reroule ensemble un peu plus tard. Et il me dit, ouais, ton nouveau projet, je t'invite à mon émission, ma secrétaire va te contacter.
Okay.
Et je me dis, il est comme tous ces mecs, j'avais rencontré Gérard Holtz, Henri Sagné, tous ces mecs qui te promettent, mais finalement, il y a jamais rien. Et le lendemain, la secrétaire de Drucker m'appelait en me disant, ce soir, tu passes à Studio Gabriel, Michel t'attend.
Voilà. Ah, c'est fou.
Et c'est devenu un ami. Et aujourd'hui, à chaque fois que je fais un truc, il est là, il vient, ou au départ, ou à l'arrivée. Et c'est un grand monsieur et ouais, c'est une belle personne.
Voilà. Bah, c'est vrai qu'on entend hyper souvent que c'est quelqu'un de très humain, très authentique et que ce qui a fait sa longévité et aussi sa popularité, c'était que c'était un mec qui mentait pas et quand il disait qu'il faisait un truc,
c'est quand même waouh.
Ouais, c'est un peu bon, tout le monde n'est pas comme ça. Ouais, tout le monde n'est pas comme ça et il y a des gens bien et autant le dire. En tout cas, voilà.
Donc la belle rencontre, c'est lui et Greg Lemon, voilà. Ouais.
Bien sûr, ouais. grande légende. Est-ce que t'avais une idole de sport quand t'étais plus jeune ou...
Alors, quand j'étais gamin, que j'étais judoka, c'était bien sûr Jean-Luc Rouget. Voilà.
Bien sûr.
Et puis après Bernard Hinault, parce que comme je disais en début d'interview, mon deuxième sport c'était le cyclisme. Je faisais du cyclisme en minime cadet, et mon idole c'était Bernard Hinault. Ce mec. Il se mettait au départ d'une course, il disait aujourd'hui je vais gagner, tout le peloton était sur son porte-bagages et il gagnait quoi. Voilà, c'était un personnage. Ouais. J'ai eu après la chance de rouler avec lui, de le rencontrer sur des opérations caritatives et tout ça. Et c'est un mec gentil comme c'est pas permis quoi. Voilà.
Ouais.
C'est un vrai Breton, mec. Faut pas l'emmerder, c'est tout. Mais il est super quoi.
Ouais. Ouais, et puis c'est le plus beau palmarès aujourd'hui du cyclisme français toujours.
Bah ouais.
Donc il est toujours super apprécié.
Monsieur.
Ouais, exactement. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Alors je me pose souvent la question, tu vois, parce que comme je disais, j'ai un gamin de 6 ans.
Ouais.
J'ai 55
ans. Il faudra faire du sport avec lui encore.
Ouais, ouais, bah oui, ouais. J'ai 55 ans et je me dis purée, je voudrais pas être un vieux con, tu sais, qui va chercher son gamin à l'école et qu'on dit ah, c'est qui le vieux qui vient chercher, ton grand-père il est venu te chercher, tu vois. Et j'ai la chance, enfin, je crois, de paraître plus jeune que mon âge et pour le coup,
je confirme.
Donc en général on me donne 10 ans de moins. Donc dans 10 ans j'aurai 65 ans. Si on m'en donne 55, ça peut encore le faire. Non, j'espère que je vais continuer à faire du sport. J'entraîne dans un club d'athlètes. Okay. J'ai quelques bons gamins qui sont à bon niveau et j'aimerais pouvoir les emmener à haut niveau, tu vois. Donc, offrir ton savoir à des jeunes, ouais, ça c'est le truc qui me fait kiffer un peu, ouais.
Ok, bon, ouais. Bah c'est tout ce que je te souhaite. Est-ce que tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Le meilleur conseil qu'on m'a donné, ouais, c'est crois en toi. Laisse personne te dire que t'es une quiche, même si par moment tu peux l'être. Crois toujours en toi, sois jamais négatif et va toujours de l'avant. Ouais, ça c'est.
Ouais. Ok.
Et tu vois, c'est resté. J'ai toujours fonctionné comme ça, même dans les moments noirs. Te dire la roue va tourner, ça va venir quoi.
Ok. Bah écoute, ça serait un très très beau mot de la fin. Je termine chacune des interviews en demandant à mes invités quel est le prochain sportif qui me recommande d'aller interviewer. Ça peut être des sportifs qui connaissent, comme ça c'est cool, ça passe un peu la balle, ou quelqu'un qui t'inspire et que tu me recommandes d'aller voir.
Bah écoute, moi je te proposerai, puisque on est en année olympique, ouais. Moi je te conseillerais d'aller voir un jeune judoka, un judoka qui a beaucoup d'avenir, je pense. Il s'appelle Nicolas Chilliard.
Ok.
C'est un Breton.
Ok.
Et je suis pas Breton, moi, je suis polonais. Mais voilà, c'est un mec qui vaut le coup. Et je pense qu'il va faire rapidement de grandes choses. Et il est entraîné d'ailleurs par mon pote Paul Thierry Pesquet.
Ok.
Voilà, il est en bonne main et c'est un jeune bien.
Ok, ouais. Trop cool. Tu le connais?
Bah oui, je le connais bien quand je vais à l'INSEP, je le vois souvent. Il est venu me voir sur mon dernier corps. Il est venu me passer une après-midi avec moi, venir me soutenir. Tu vois, c'est super sympa. Il était pas obligé. Là, il était au tournoi de Paris il y a 15 jours. Il s'est blessé, mais je l'ai vu à l'INSEP la semaine d'avant. J'étais dans les tribunes. Tu vois, il était sur le tatami. Il m'a vu au loin. Il est venu et il me suit sur les réseaux sociaux. Enfin bon, on a. Sans être super pote, il y a une vraie relation, tu vois, et je suis sûr que c'est un mec qui mérite, et je croise les doigts pour lui, mais j'aimerais bien qu'il explose tout au jeu, quoi, ça serait pas mal.
Ça marche. Bon, bah, je note son nom et on en reparlera un petit peu plus tard. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui veulent suivre un petit peu ce que tu fais, sur quel réseau social tu es le plus actif et comment est-ce qu'on peut
En général, moi, je relis mes trois réseaux sociaux sont liés.
Okay.
Je mets pas mal sur Insta. Mais la page qui fonctionne le mieux, c'est ma page Facebook, c'est Pascal Piche ultra, Pascal Piche triathlète. Voilà,
okay.
Tout simplement.
Super, ouais. Super. Et qu'est-ce qu'on te souhaite du coup?
Bah écoute, je vais dire de réussir, mais je pars jamais négatif. Donc en général, quand je me lance dans un défi, pour moi, il y a pas d'autre possibilité que de réussir.
Ouais.
Donc bah je sais pas, peut-être de trouver tous les financements, les partenaires pour monter le projet. Mais après, pour le reste, ça déroule. Et puis, j'invite tous les auditeurs qui seront sur Paris ou sur les autres endroits où on sera, de venir. Et même si vous me voyez à l'effort, je discute facilement. Même à l'effort, je peux parler. Donc, n'hésitez pas à venir me voir et venir partager. Ça sera avec plaisir, quoi.
Ok, super. Bah, écoute, on a beaucoup de triathlètes parmi les auditeurs. Donc, vraiment, je leur recommande d'aller suivre un petit peu ce que tu fais et de pouvoir, bah, s'ils peuvent venir te voir durant les exploits. Et si jamais... Eh ben vous avez une entreprise et que vous voulez filer un coup de main et que vous voulez être partenaire, eh ben vous hésitez pas une seule seconde, vous contactez Pascal. En plus, généralement, c'est du don et du coup, c'est défiscalisable hein, pour les entreprises. C'est, je crois qu'il y a beaucoup de,
ouais, il y a un peu
tous les formats qui sont possibles.
Ouais, voilà, ouais.
Donc voilà. En tout cas, bah écoute, merci beaucoup
avec
Pascal
plaisir,
pour ce super moment. Et puis bah écoute, à très bientôt.
Avec plaisir.
Salut.
Salut.